Pénélope.
1.
Julian, dépêche-toi, s'il te plaît.
Manhattan. Upper West Side. 12 décembre 2014. 10h du matin. Je m'appelle Pénélope Kurkowski, épouse Lawrence. Si vous êtes une femme, vous m'avez sans doute déjà aperçue il y a quelques années sur la couverture de Vogue, de Elle ou de Harper's Bazaar. Et vous m'avez détestée, parce que j'étais plus grande, plus mince, plus jeune que vous. Parce que j'avais plus de classe, plus d'argent, plus d'allure. Si vous êtes un homme, vous m'avez peut-être croisé dans la rue et vous vous êtes retourné sur mon passage. Et quelle que soit votre éducation ou le respect qu'en théorie vous affirmez porter aux femmes, dans le secret de votre cerveau de sale type, vous avez pensé quelque chose allant de « elle est trop bonne » à « putain, je me la taperai bien celle-là ». Julian, allez ! Le taxi nous a laissés à l'angle de Central Park West et de la 71e. Il n'y a même pas 200 mètres à faire pour rejoindre l'hôtel où m'attend Philippe. Mais mon boulet de fils fait du surplace. Je me retourne. Emmitouflé dans son caban, Julian s'est assis sur les marches en pierre d'une des belles brownstones en grès rouge qui borde la rue. Avec son air lunaire, il s'émerveille de la buée qui, dès qu'il ouvre la bouche, se condense dans l'air glacial. Il a son sourire béat qui laisse voir ses dents de la chance et porte comme toujours son vieux chien en peluche qui pue et menace de tomber en lambeaux. « Ça suffit maintenant !» Je reviens sur mes pas et le tire par la main pour le forcer à se lever. Il fond en larmes dès que je le touche. Toujours le même cinéma, les mêmes jérémiades.
« Tu arrêtes !»
Ce gosse m'exaspère. Tout le monde s'extasie devant lui et personne ne semble s'apercevoir de ce qu'est mon quotidien avec lui. Tantôt lent et rêveur, tantôt agressif et pleurnichard, égoïste comme ce n'est pas permis, jamais reconnaissant de ce qu'on fait pour lui. Alors que je suis à deux doigts de menacer de m'en prendre à son chien, une camionnette blanche mord le trottoir et s'arrête juste derrière nous. Son conducteur jaillit du véhicule et tout s'enchaîne à une telle vitesse que je n'ai ni le temps ni la présence d'esprit d'opposer la moindre résistance. Une ombre fond sur moi, m'assène un coup de poing au visage, un autre dans l'abdomen, un troisième dans les côtes avant de me précipiter à l'arrière du fourgon. J'ai le souffle coupé. Plié en deux, je souffre tellement que je ne peux même pas crier. Lorsque je relève la tête, je reçois en plein visage tout le poids du corps de mon fils que l'on vient de jeter dans le fourgon. L'arrière de son crâne fait exploser l'arête de mon nez. Une fontaine de sang jaillit sur ma figure. Mes yeux me brûlent et mes paupières se ferment.
2.
Lorsque je reprends connaissance, je suis dans une semi-obscurité, enfermé dans une prison aux barreaux rouillés. Une véritable cage pour animaux, exiguë, sale, immonde. Julian est à demi couché sur moi, en pleurs et en sang. Je le serre dans mes bras et comprends que le sang sur son visage est le mien. Je le réchauffe, lui assure que tout ira bien, que papa va venir nous délivrer. Je l'embrasse, je l'embrasse, je l'embrasse. En une seconde, je regrette tout le fiel que j'ai souvent déversé sur lui. Et je pressens que ce qui nous arrive est peut-être la conséquence de mes égarements. Je plisse les yeux et scrute les ténèbres qui nous entourent. Deux lampes de chantier, accrochées à des poutrelles métalliques, répandent un éclairage faiblard laissant deviner que nous sommes dans une sorte de hangar où est entreposé du matériel relatif à un zoo, un cirque ou une ménagerie. J'aperçois d'autres cages, des rouleaux de toile grillagés, un empilement de chaises en ferraille, de faux rochers, des palettes en bois putréfié, des arbustes en plastique.
« J'ai fait pipi, maman !»
pleure Julian.
« C'est pas grave, mon cœur !»
Je m'agenouille à côté de lui, sur le sol en béton, dur et glacé. L'air empeste le moisi, l'odeur âcre et rance de la peur. Je ramasse le chien en peluche qui traîne par terre et l'utilise comme une marionnette.
« Regarde, Doudou, il veut des bisous !»
Pendant quelques minutes, je m'efforce de jouer avec lui en essayant de créer une bulle de tendresse qui le protégerait de cette folie. Un coup d'œil à ma montre, il n'est même pas 11h30. Nous n'avons pas roulé longtemps, donc nous ne sommes pas très loin de Manhattan.
peut-être dans le New Jersey, le Bronx, le Queens. Je suis persuadé que la personne qui nous a enlevés n'a pas frappé au hasard. Elle a pris des risques énormes en nous agressant en plein cœur de la ville. Donc, c'est nous qu'elle cherchait, nous qu'elle voulait atteindre. Les Lawrence. Mais pour quelle raison? Une rançon? Je m'accroche à cette idée parce qu'elle me rassure. Sean donnera n'importe quoi pour nous sortir de là. Enfin, moi peut-être pas, mais son fils, c'est certain. Qu'importe la somme demandée, il se la procurera. Sean a sa propre planche à billets. 3 coups de pinceau sur une toile et il trouvera un troupeau de moutons prêts à sortir leurs millions. Spéculateurs, traders, multimillionnaires, hedge funders, oligarques russes, nouveaux riches chinois, ils veulent tous avoir un Lawrence dans leur collection. Un Lawrence. Un Lawrence. Un Lawrence, c'est mieux que de l'or. Mieux que 1000 lignes de coke. Mieux qu'un jet privé ou une villa aux Bahamas. Petite pute. Surprise, je pousse un cri qui fait pleurer Julianne. Une femme s'est approchée de la cage sans que je m'en rende compte. Obèse, bossue, boitillante, je la devine prématurément vieillie. De longs cheveux raides et grisâtres, un nez exagérément busqué, des yeux injectés de fureur. Fourmillant de rides, son visage effrayant est couvert de tatouages. Des chevrons, des croix, des triangles, des cercles, des éclairs, comme les peintures faciales des Amérindiens. « Qui êtes-vous ? »
« Ta gueule, petite pute ! T'as pas droit à la parole !»«
Pourquoi faites-vous ça ?»«
Ta gueule ! »
hurle-t-elle en m'attrapant à la gorge.
Avec une force de taureau, elle me tire en avant et me fracasse la tête plusieurs fois contre les barreaux en ferraille. Mon fils hurle, mon nez recommence à saigner. J'encaisse les coups sans broncher, mais je comprends qu'elle ne mesure pas sa puissance physique. Enfin, elle me relâche. Le visage ensanglanté, je m'écroule sur le sol. Alors que Julianne vient se jeter à mon cou, je m'aperçois que l'Indienne est en train de fouiller dans une vieille boîte à outils à moitié rouillée.
« Viens ici !» hurle-t-elle.
J'essuie le sang qui dégouline dans mes yeux et je fais signe à Julianne de s'éloigner dans le fond de la cage. Ne pas la contrarier. Elle continue son inventaire, sortant tour à tour un coupe-boulon, un rabot, un serre-joint, une pince coupante.
« Prends ça !»
crie-t-elle en me tendant une tenaille russe. Comme je reste sans bouger, elle s'exaspère et tire du fourreau qu'elle porte à sa ceinture un couteau de chasse cranté de 30 cm. Elle m'agrippe par le bras et d'un coup sec tranche le bracelet de ma montre. Puis elle agite le cadran sous mon nez et désigne l'aiguille des secondes.
Écoute-moi bien, petite pute. Tu as exactement 1 minute pour me rapporter l'un des doigts de ton fils. Si tu refuses, j'entre dans la cage, je l'égorge et ensuite c'est toi que je tue.
Je suis terrorisé. Mon cerveau s'interdit même de conceptualiser ce qu'elle me demande.
« Enfin, vous ne... »«
Fais-le !»
hurle-t-elle en me jetant la tenaille au visage. Je vais perdre connaissance.
« Il te reste 40 secondes.
Tu me crois pas ? Regarde bien !»
Elle entre dans la cage et attrape Julianne qui hoquette de terreur. Elle le ramène à l'avant, son couteau cranté plaqué sur la gorge de mon fils.
20 secondes!
Mon ventre se tord, je gémis.
Je ne pourrai jamais faire ça.
Démerde-toi!
Je comprends qu'elle va mettre ses menaces à exécution et que je n'ai pas le choix. Je ramasse la tenaille et j'avance vers elle et vers Julianne qui se met à hurler.
Non, maman! Non, maman! Pas ça! Pas ça!
En marchant vers mon fils, une arme à la main, je comprends 2 choses. L'enfer, c'est ici. L'enfer dure longtemps.
3.
Et l'enfer est pire que votre pire cauchemar. Après m'avoir fait commettre l'innommable, le monstre a emporté mon fils. Pour contrer ma rage folle, l'Indienne m'a donné des coups jusqu'à me terrasser. Dans le ventre, la gorge, la poitrine. Lorsque j'ai repris connaissance, elle m'avait installé sur une chaise métallique et était en train de m'entourer le buste avec du fil de fer barbelé, me ligotant très serré. Des heures ont passé, sans que je sache dire combien. Je tends l'oreille, mais je n'entends plus Julianne. La moindre respiration me fait souffrir. Les pointes acérées du barbelé déchirent ma peau. Je m'évanouis, je me réveille, j'ai perdu la notion du temps. Je ruisselle de sang. Je m'asserre dans ma merde, ma pisse, mes larmes, ma peur.
« Regarde, petite pute !»
Je sors de ma léthargie en sursautant. L'Indienne apparaît dans la lumière. Elle porte Julianne d'un seul bras. Dans son autre main, elle tient son couteau de chasse. Je n'ai même pas le temps de crier. La lame se lève, brille d'un éclat fiévreux avant de s'abattre sur mon fils. Une fois, deux fois, 10 fois. Le sang gicle. Je hoquette, je hurle. Les dents de fer me perforent les chairs, tout le corps. Je suffoque, je m'étouffe, je veux mourir.
Petite pute !